Bonjour, bienvenue sur Radio Caravane, nous sommes de retour sur les ondes.
À l'occasion de la Nuit du Cirque 2021, nous avons rencontré trois compagnies fascinantes.
Entre poésie, magie et danse, levons le rideau sur une émission en cascade avec la surprenante compagnie Carbone Invisible.
La compagnie Lapsus qui bouscule notre rapport au réel. Mais pour commencer, entrons dans l'intimité de la compagnie KS.
Radio Caravane s'est déplacé au centre culturel Alban Mainville à Bellefontaine pour rencontrer la compagnie KS avant leur première représentation du spectacle Idylle dans le cadre de l'événement La Nuit du Cirque. Nous écoutons tout de suite Sylvain et Katia pour avoir les secrets des coulisses.
La compagnie s'appelle KS.
Je m'appelle Sylvain, elle s'appelle Katia.
On a fait la formation du Lido, on est sorti en 2014.
C'est notre premier spectacle de cette compagnie-là. Moi, je suis jongleur, en tout cas. Et évidemment, avec le Lido, on a développé plein d'autres choses. On fait du jeu d'acteur, beaucoup, et pratique la danse. On est toujours en travail perpétuel. Donc, Katia fait aussi de la musique. Moi, je fais de la musique. C'est un peu... Il y a un peu de tout dans ce spectacle, okay. Ouais.
On a commencé ce projet dans le monde d'avant. Puis là, on le sort dans le monde d'après. Du coup, on a fait la création dans le monde du pendant. Donc, on a commencé tous les deux avec Katia. Hein. C'est un spectacle sur le couple. Les idées, elles viennent de notre quotidien, de chez nous. Donc, ça a commencé dans notre cuisine, dans notre salon.
Voilà, c'est notre bébé qu'on entend qui est arrivé aussi entre-temps, donc ça a fait une espèce de pause, voilà, c'est ça.
On a beaucoup envie de travailler aussi dans des centres culturels comme ça, donc pas rester local en fait. On a aussi fait une présentation pour un thème de l'amour à Mirail, à la fabrique de Mirail. Ça nous plaît ces sortes de rencontres, d'être simple, proche des quotidiens.
Concernant vos intentions à travers la création de ce spectacle, un peu le propos que vous voulez mettre en avant, est-ce que vous pouvez nous en parler ?
En fait, il y a un propos, hein. Forcément, ça en a un plan spectacle idylle, on voit bien un petit peu, mais bizarrement, il n'y a pas beaucoup de choses qu'on veut mettre en avant parce que ça parle tellement que mettre en avant, ça serait soit donner des conseils ou faire comme un guide de l'amour, et c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc au contraire, on essaye de cacher un peu les choses, et plus on les cache, plus les gens les voient, plus les gens se les approprient par rapport à leur histoire à eux. Donc c'est là où on touche un peu plus l'universel. Des scènes qui pour nous sont claires derrière, qui sont parties d'une scène toujours qu'on avait, par exemple une dispute dans la cuisine, on a dit « Ah mais c'est marrant, t'as vu comment on est différent là ?» Si on le mettait comme ça avec nos langages circassiens, ça pourrait donner ça, on l'extrapole, et quelques mois plus tard, ça devient une scène un petit peu fantaisiste, voilà. Mais derrière, il y a quand même une intention, et on essaie justement de pas trop en faire, de pas trop appuyer sur ce couple. Mais les gens, ils ont tous les données déjà en eux, dans leur histoire.
Donc c'est votre quotidien qui a inspiré la plupart des scènes du spectacle ?
Ouais, les quotidiens, mais aussi notre amitié, notre couple. On se connaît depuis 10 ans et on sait à quel point on est différent sur scène, mais aussi dans la vie. On a trouvé ça un peu drôle.
On a vraiment fait une période de laboratoire, on a échangé nos langages vraiment comme ça, et puis on s'est un peu perdu au début, tu te rappelles, les trois premiers mois de laboratoire, on a tout mis de côté, et on est reparti sur quelque chose qui était plus proche de nous, et on a assumé plus le cirque, en fait, en parallèle de notre construction de couple aussi, à nous, parce qu'on a traversé aussi des difficultés, aussi des grands moments aussi dans notre vie, entre le confinement, la grossesse, tout ça, il y avait des choses qui nous ont nourris naturellement. Mais voilà, on assume quand même de parler du couple, mais pas que ça. On digresse quand même beaucoup, mais plus on digresse, plus on s'en éloigne, plus on en parle, en fait. C'est le spectacle aussi, un moment qui nous a parlé lui-même, en fait. On l'a laissé une fois qu'on avait trouvé la base. Il y a une histoire de chapitrage, un peu, dans le spectacle. Et on sent qu'on pourrait rajouter des chapitres, naturellement, et même à la fin des spectacles, quand on parle avec le public. Tout le monde y va de son petit chapitre. « Ah, vous avez pas fait ce chapitre, il pourrait y avoir ce chapitre. » C'est quelque chose qui est vraiment toujours en mouvement, hein.
Ça a vocation à évoluer après le spectacle, enfin qu'il y a des chapitres qui se rajoutent par exemple.
Ouais, c'est pas interdit, on se l'interdit pas en tout cas, ouais. Pour l'instant on a besoin de le jouer, de le roder, parce que on a vu que quand on est moins dedans, évidemment, comme c'est beaucoup sur nous, ben ça marche moins et on est moins dans ce qu'on veut, on est plus dans une démonstration, ça fait un peu guide ou quoi que ce soit, donc ça fonctionne, mais on a vraiment cette idée de partage simplement et d'amener les gens dans notre salon pratiquement. Pas que, mais qu'ils aient cette sensation-là.
Mais sans le donner morale. Il y a beaucoup d'humour et beaucoup d'émotions dedans.
On essaye de ne pas faire qu'un spectacle humour. On n'a pas envie de jouer que sur ce tableau.
Il y a quand même pas mal d'ironie, mais qui donne du coup un côté... ça donne une ouverture à l'émotion.
Tout à l'heure, vous nous parliez des avantages que c'était de travailler avec une personne complice, proche l'un de l'autre. Est-ce que vous avez vu des limites à ça? Et aussi, on se demandait comment vous passiez du professionnel à votre vie privée. Est-ce que vous avez vu des choses qui ont changé après ça?
Bon, moi, je vois mon métier comme un métier passion qui s'arrête jamais, quoi. On n'est jamais vraiment en vacances ou on est tout le temps en vacances. Pas forcément qu'avec Katia, mais avec d'autres spectacles. Je les ai toujours en tête quelque part où je vois quelque chose dans la rue, où j'ai une idée de ça me vient comme ça. Donc, je suis toujours un peu dedans, quoi. Mais ça veut pas dire que je suis toujours en train de jouer la comédie aussi avec mes potes ou avec ma famille. Voilà, c'est un équilibre qui se définit pas vraiment. C'est une partie entière, quoi. Il n'y a pas une partie professionnelle et voilà. Si, des fois, il a fallu vraiment débrancher un peu. Des fois, quand on joue des scènes un peu théâtrales, ça peut chauffer un peu, quoi. On va gratter dans l'ego et tout ça. Donc, il y a des moments, on arrête, même si on n'est pas content de ce que l'autre fait ou donne pas assez ou l'a pas assez d'énergie, qu'on a pu s'engueuler un petit peu. Mais là-dessus, on a bien réussi à... Ok, on débranche, et puis on va manger ensemble tranquille, on coupe complètement, on va parler d'autres choses, parce qu'on a plein d'autres passions aussi dans la vie.
Et ça n'a pas été dur pour vous de parler de votre intimité devant un public ou de le mettre en scène?
En fait, on a l'impression tellement universelle. Ce qu'on voulait, c'est qu'on veut que les gens ils pensent qu'on parle de nous. Et du coup, ils se relaxent un peu. Et en fait, ça touche vraiment.
Vous parlez beaucoup d'universalité. Du coup, je me demandais, il y a quand même beaucoup de cultures dans le monde. Aujourd'hui, on remet quand même en question aussi la question du couple dans sa forme traditionnelle, hétérosexuelle. Justement, pour vous, c'est quoi qui reste? C'est quoi qui est universel dans un couple?
L'amour. Ouais, c'est l'amour.
Allez, 20 points pour Katia.
Non, bah, c'est le seul truc qui reste vraiment universel, mais l'amour, c'est ça, ça change pas. C'est la même chose partout.
On parle de l'amour, mais on parle aussi de la relation de couple. C'est-à-dire, on peut être un couple sans être amoureux. Il y a des gens qui sont très bons colocs et ils se marient ensemble, ça fonctionne, l'amour disparaît. Et c'est un peu la frontière où les deux en même temps, c'est ça dont on veut parler. C'est pas un spectacle vraiment qui transpire, ça dégouline d'amour. Voilà, on n'est pas là-dedans, on est aussi dans... Parce qu'avec Katia, même si notre histoire est belle, il y a des moments où... Je supporte pas trop, quoi.
Oui, du coup, l'amour, il y a aussi beaucoup de respect de l'autre à qui il est. Ça aussi, je pense, c'est assez global. Mais on prétend pas d'avoir juste des réponses ou des idées universelles. C'est beaucoup plus simple que ça.
Qu'est-ce que ça va être la suite pour vous après ce spectacle?
On espère qu'on va le jouer.
Pour une prochaine création, vous voulez dire?
Oui.
On verra ça. Nous, on a tellement envie de partager, déjà d'aller au bout. Pour l'instant, c'est que le début, une première. Déjà, en le jouant 4 fois, on se rend compte qu'à l'intérieur, il y a tellement de choses à vivre. D'abord celui-là. Moi, j'ai déjà des idées, évidemment. Naturellement, l'histoire d'un couple sur scène, il peut amener à d'autres choses. Après une rupture, dans l'univers du spectacle, c'est ouvert à plein de choses. Mais là, pour l'instant, on a envie simplement de le jouer au maximum, quoi.
Et tout ce qu'on pourrait changer, en fait. Dans ce spectacle-là, on peut faire une suite, du coup, des 20 prochains chapitres qu'on n'a pas encore. Mais du coup, ça peut changer. D'abord le jouer, après voir s'il y a des trucs qui peuvent changer dedans, si on a envie de rajouter des trucs, enlever des trucs. Il y a beaucoup de trucs à faire, en tout cas.
Beaucoup de phases d'improvisation aussi dedans qui sont encore ouvertes, donc pratiquement on pourrait jouer le spectacle 2 fois de suite, on n'aurait pas l'impression de jouer le même, même s'il y a quand même une écriture. Voilà, donc là-dessus, au niveau créativité de l'instant, ouais, on est loin d'avoir fait le tour avec ce spectacle. On croise juste les doigts pour qu'on puisse avoir des espaces où le jouer.
Retrouvez toutes les informations des prochains spectacles sur leur site internet lacompagniekaes.com.
laissons-nous transporter dans d'autres mondes avec la compagnie Carbon Invisible.
Bonjour, bienvenue. Alors aujourd'hui, on reçoit un invité. Je vais vous laisser vous présenter. Qui êtes-vous ?
Bonjour, je suis Arkman Urji. Normalement, vous deviez voir Benjamin Dubel ici. Il ne peut pas, pour l'instant, être avec vous. Je suis l'interprète, le personnage de La Caravelle et l'Oiseau Blanc, les spectacles de cette compagnie à Carbon Invisible. Mon parcours est un peu particulier. Si vous voulez, je peux vous parler un peu du spectacle, du parcours de Benjamin, de pourquoi je suis ici. Benjamin Dubel est directeur de la compagnie Carbon Invisible. Lui est un comédien et metteur en scène et un magicien, illusionniste aussi. Il était intéressé pour monter un spectacle qui parle des croyances surnaturelles. Et nous avons collaboré ensemble, nous nous sommes rencontrés et nous avons parlé un petit peu de ce qui l'intéressait justement par rapport à ce sujet des croyances. Benjamin, lui, travaille en tant que comédien et metteur en scène dans différentes compagnies, en théâtre des rues aussi. Il est aussi professeur de théâtre et il m'a demandé d'être l'interprète, le personnage principal de ce spectacle, La Caravelle et l'Oiseau Blanc. Pour ma part, je suis, pourrait dire, conférencier, une sorte d'aventurier. Beaucoup de choses m'intéressent à ces sujets, sujets de la croyance et du surnaturel. Mon parcours est atypique. Je ne suis pas moi-même comédien. Je suis un personnage surnaturel pour ma part.
Votre compagnie se nomme Carbon Invisible. Pourquoi ce nom en particulier ?
Il faudrait poser la question à Benjamin. C'est devenu d'une blague parce qu'il cherchait un nom de compagnie qui évoque la magie, l'illusion. Et c'est en envoyant un email qu'il s'est dit « je vais l'envoyer en copie cachée à quelqu'un ». Vous savez, c'est copie cachée. Et le CCI, ça veut dire copie carbone en fait, pas copie cachée, copie carbone. Avec les i invisibles. Donc quand vous envoyez un email à quelqu'un avec les CCI, ça veut dire copie carbone invisible. Et ça venait de là.
Comment vous est venue l'envie de faire ce spectacle ?
L'envie est venue vraiment de Benjamin au départ. Et en ces rencontrant, nous nous sommes retrouvés. Il y avait vraiment quelque chose en commun qu'on avait envie de discuter. C'est l'envie de parler de notre rapport au réel, de dire que la réalité, ça n'existe pas. Je sais que c'est un concept qui peut être troublant, mais la réalité n'existe pas parce que la réalité est multiple. Je vous explique juste rapidement, même si vous pourrez les retrouver dans le spectacle parce qu'on en parle. Il y a des concepts, le réel et la réalité. Le réel, c'est ce qui existe, ce qui est, et la réalité, c'est notre perception du réel. Donc elle est propre à chacun, elle est différente selon les personnes, donc la réalité n'existe pas, elle n'est pas unique, elle est multiple selon les nombres d'individus qu'il y a sur la planète. Et l'envie, c'était de parler de cela, de dire aux gens, eh bien, nous vivons tous dans des réalités différentes, et il faut bien qu'on arrive à s'accorder, à se comprendre pour vivre ensemble. Et on avait envie de faire des expériences, de détourner la réalité, de se rendre compte que tout cela, ce n'est qu'une illusion, et s'emparer de l'outil de l'illusionnisme pour parler de cela. C'est un outil très intéressant, forcément pour parler aussi des manipulations et tout cela.
Quand on est magicien, on interagit beaucoup avec le public. Par rapport à ça, qu'est-ce qui vous plaît dans l'approche avec le public ?
En effet, dans ce type de spectacles, l'idée, c'est si la magie, c'est le détournement du réel à l'intérieur du réel, il faut être avec les spectateurs au même endroit. C'est-à-dire que les spectateurs ne sont pas en face d'une scène de théâtre où se joue une fiction. Tout le monde sait que c'est une fiction. Là, le spectacle vient dans la réalité du spectateur. C'est là que c'est possible de détourner la réalité. Sinon, ça reste des effets spéciaux comme au cinéma. On sait que c'est faux. Ce qui est amusant dans l'illusionnisme, c'est de penser que c'est vrai. Après, dans ce spectacle, il y a des choses qui sont vraies. Bon, c'est un mélange entre les deux. Nous sommes toujours dans une ambiguïté entre la mise en scène, la manipulation et qu'est-ce qui se passe qui peut être véridique. L'interaction, après, vraiment avec les spectateurs, c'est quelque chose d'amusant parce que ça crée toujours des imprévus. Et donc il faut toujours être prêt à changer quelque chose, à rebondir. Et ça crée une légère tension qui est amusante pour un interprète. C'est quelque chose aussi qui vient beaucoup de l'art, des arts de la rue où il y a beaucoup d'interactions. Voilà, on s'amuse beaucoup à ça et on joue aussi vraiment sur les imprévus, c'est-à-dire que les spectacles aléatoires, c'est qu'il peut, changer. Le dénouement peut être très différent selon ce qui se passe. L'idée, c'est de présenter différentes fables, différentes histoires, différentes expériences avec les spectateurs. Mais selon ce qui se passe, nous allons prendre un chemin ou un autre. Donc, vous pouvez voir les spectacles 2 fois, 3 fois ou 15 fois, il sera toujours différent.
Alors, du coup, par rapport à ce spectacle, quelles sont vos prochaines dates ou représentations et où est-ce qu'on peut trouver plus d'informations sur la compagnie et puis sur ce que vous faites?
Donc là, il y a les présentations au Bijou pour la nuit du cirque, le 13 novembre, à 18h et à 20h. Et ensuite, il y a une autre résidence qui aura lieu en avril à Paris, à la Villette, au Magic VIP. Et le spectacle sortira l'année prochaine. Il y a d'autres petits endroits aussi où il y aura des présentations, des essais, mais parfois même chez des particuliers. Si vous voulez m'inviter à la maison, je peux venir si vous avez envie. Et vous pouvez prendre les renseignements là pour l'instant sur le site de la grainerie, sur le site du Bijou où nous allons jouer et de la nuit du cirque et sur les sites internet de la compagnie Carbone Invisible. C'est, je crois, www.carbone-invisible.com. Il y a un Facebook aussi. Et vous pouvez suivre nous des noms, des nouvelles de temps en temps.
Et merci beaucoup. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver les informations du coup sur le site internet de Carbone Invisible et puis sur Facebook. Mais merci d'être venu.
Merci beaucoup.
Voilà, et puis à bientôt.
À bientôt, merci beaucoup. Et je vous raconte une fable. À l'origine des temps, la vérité était un miroir que Dieu tenait dans ses mains. Un jour, ce miroir tomba sur la terre. Et se brisant des milliards de morceaux. Et depuis ces jours, chaque être humain, lors de son existence, trouve un petit morceau de ce miroir, persuadé de détenir la vérité.
Radio Caravane.
Radio Caravane.
Radio Caravane.
Écho.
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 L'écho des coulisses.
Et pour terminer, une transition sans langue qui fourche, voici la compagnie Lapsus.
Nous sommes avec Stéphane Filion et Pierre Talaron. Bonjour.
Bonjour.
Donc on va déjà commencer. Présentez-vous s'il vous plaît.
Eh bien oui, donc je suis Pierre Talaron, effectivement. Je suis le metteur en scène pour la pièce Le Chant du Vertige, qui est présentée par la compagnie Lapsus.
Et je suis donc Stéphane Filion, cofondateur de la compagnie Lapsus, qui existe depuis une douzaine d'années maintenant. Et je suis artiste au plateau, jongleur particulièrement.
Quels sont vos parcours respectifs du coup jusqu'à aujourd'hui ?
Moi, je viens du théâtre. J'ai fait une école de théâtre à Lyon dans le début des années 2000 et j'ai commencé dans le parcours professionnel en tant qu'interprète dans le milieu du théâtre. Et puis, assez rapidement, je me suis mis à la mise en scène.
Et quant à moi, à la même période, au début des années 2000, j'ai été formé en école de cirque. en école préparatoire, ensuite en école professionnelle.
Qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller dans cette voie-là ?
Ben, une sorte d'atavisme familial. Mes parents faisaient déjà ça, donc je suis né dans ce milieu-là. Alors, la question du choix est un peu floue pour moi. Je ne sais pas si j'ai vraiment eu le choix à un moment de ce parcours-là. Mais bon, voilà, donc je suis né dans ce milieu-là. J'ai grandi au milieu d'artistes qui créaient des spectacles. J'ai vu ça depuis tout petit. Et puis, assez vite, je me suis dit que j'avais envie de faire ça aussi.
Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de plus égoïste dans l'envie de faire quelque chose d'un peu différent, quoi, de chercher une forme de singularité et de, au moment de l'adolescence, quand on se cherche un peu et qu'on a envie d'affirmer, d'exprimer des choses. Bon, voilà, j'avais pas envie de faire les mêmes sports que les copains et j'avais envie d'aller faire une activité dans laquelle il y avait un espace d'expression qui était un peu plus ouvert et un peu plus singulier, je crois.
Est-ce que vous pourriez nous présenter du coup la compagnie Lapsus et également pourquoi ce nom-là ?
Alors, pourquoi ce nom-là ? C'est le seul sur lequel personne n'a dit non. Et ensuite, la compagnie Lapsus défend des univers esthétiques qui sont assez fins, qui sont assez léchés. Ça fait partie d'une identité artistique qu'on revendique.
Est-ce que vous pourriez nous présenter les autres membres de l'équipe, du moins, qui composent principalement le groupe Lapsus ?
On est 7 au plateau. En revanche, là, sur cette seule résidence à la Grainerie, il y a 20 personnes qui ont travaillé sur ce projet.
Comment est-ce que vous avez créé ? Quelles ont été les étapes de travail à aboutir sur ce spectacle ?
On a d'abord constitué une équipe, une distribution, à partir d'une thématique que l'on avait posée avec les personnes qui étaient déjà dans les spectacles précédents. En l'occurrence, pour faire très simple, les enjeux environnementaux et comment, en tant que co-auteur et co-autrice, on se positionne face à la crise climatique, environnementale qui s'offre à nous, et non pas qu'on n'a pas envie de subir, mais qu'on a envie d'accueillir aussi. Et donc, on est parti avec des textes au départ, puis des improvisations qui ont permis de faire émerger, de faire naître de la matière. Matière qui ensuite a été agencée pour essayer d'arriver à une écriture qui a été sublimée, je mets des guillemets, avec une mise en scène, avec tout un travail de gestion des intensités, des rythmes, enfin, peut-être que Pierre en parlera différemment. Donc c'est un processus qui est très empirique. On défend ça, l'idée qu'en cirque, on est sur des créations de plateau, des écritures de plateau, c'est-à-dire qu'à la différence du théâtre, on n'arrive pas avec une écriture préalable en disant « toi tu fais ça, toi tu fais ça », mais ce sont vraiment les improvisations qui permettent de faire émerger des matières, et à partir du sens global que l'on veut donner à ces matières, en fonction de ce que l'on vise, il y a derrière une réflexion à mener sur comment est-ce qu'on agence tout ça et comment on donne du sens à cet ensemble de pièces de puzzle un peu dispersées au départ.
De ce genre de cirque que vous faites, qu'est-ce que vous pensez qu'il va devenir plus tard ?
J'ai envie de défendre l'idée que le cirque, à sa toute modeste échelle, sera capable de se saisir des enjeux sociétaux qui sont aujourd'hui les nôtres à une échelle beaucoup plus vaste, pour se remettre en cause assez profondément.
Et comment vous pensez que votre spectacle en particulier il peut impacter ?
On n'en sait rien. Nous, le travail qu'on mène, c'est déjà d'arriver à notre endroit de travail, de sentir qu'on est suffisamment honnête pour vraiment se remettre en cause, vraiment ne pas reprendre des manières de faire, des manières de travailler, sentir que nos repères sont mouvants et que chaque jour est un jour neuf, hein, comme on dit.
Et pas avoir non plus d'objectifs de résultats là-dessus.
Prendre les choses comme elles viennent et de voir le résultat ensuite une fois que c'est proposé au public.
Oui, c'est ça, c'est essayer de déplacer le regard, d'élargir les œillères, à la fois les nôtres en tant que créateurs, créatrices, et à la fois celles du public, pour essayer de regarder, d'écouter les choses un peu différemment.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager ?
Peut-être l'espoir de pouvoir petitement toucher quelqu'un et quelqu'une dans le public, et de se dire qu'on essaye de faire les choses avec le plus d'honnêteté possible, d'une manière un peu moins conquérant.
Mais c'est prendre un gros risque pour la carrière. Je veux dire de partir dans le côté engagé, quitte à pas recevoir, avoir le public qu'on veut.
Peut-être à ce moment-là, on est sur des enjeux qui dépassent les notions de carrière, me semble-t-il. Enfin, moi, savoir ce que la compagnie sera dans 10 ans m'importe moins que de savoir dans quel monde vivront mes enfants dans 10 ans.
Et pour vous, toucher les gens, ça vous fait quoi ? D'avoir un impact, ça vous ferait quoi ?
Moi, c'est le plaisir de l'échange et du partage. Mais il n'y aurait pas d'envie ou d'intentionnalité de faire changer le positionnement des gens, de leur faire prendre conscience de certains trucs. On fait une proposition artistique sur scène, et puis ensuite, les gens s'en emparent de la manière dont ils ont envie de s'en emparer, en quelque sorte.
Et puis après, si on arrive, on en parle souvent au plateau quand on travaille, que si vraiment on arrive à se mettre dans cette qualité de présence entre nous, au plateau, avec la pièce qu'on est en train de jouer, si vraiment on est dans une autre manière de se sentir vivant, finalement, peut-être, on s'offre la possibilité de, que ça se transmette avec ne serait-ce qu'une personne dans le public, bon, bah, ce sera déjà ça. C'est impossible à mesurer, et même, je trouverais ça, ce serait une nouvelle manière de se fourvoyer que de chercher à quantifier ça.
Quelles sont vos prochaines dates et où est-ce qu'on peut avoir plus d'informations pour vous suivre sur les réseaux ou autres ?
Alors, la première du spectacle sera le 11 décembre à 7 et toutes les autres dates sont à retrouver sur notre site internet. Les réseaux sociaux, on oublie, on est très très mauvais là-dessus, mais sur le site, il y a un calendrier qui est à jour et qui permet de connaître toutes les dates de diffusion du spectacle pour la saison 21-22.
Votre site qui est du coup ?
Seyolapsus.com.
Merci beaucoup Stéphane et Pierre
merci
d'avoir attribué du temps. Et
merci.
Bonne tournée pour vous.
Et bien merci.
Fin de cette émission, merci de nous avoir écoutés. Retrouvez tous nos podcasts et interviews longues sur notre site radiocaravane.net.
Nous remercions chaleureusement toutes nos radios partenaires qui nous diffusent.
Cette émission a été préparée et réalisée par Laure,
Zach,
Thomas,
Benoît,
Louis,
Lisa,
Eric,
Badreddin,
Lucas,
Michael,
Manon,
Anel,
Bouchra,
Sadi.
Et on vous retrouve très prochainement pour une nouvelle émission. À bientôt.
Radio Caravane.
Radio Caravane.
Radio Caravane.
Écho.
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 L'écho des coulisses.
Radio Caravane est un projet d'éducation populaire et de médiation culturelle. Proposé par la Grainerie et les associations Média Commun et Yves Assemble Studio.
Un groupe de jeunes adultes en parcours d'insertion s'initie aux techniques radio et web média.
Il couvre la programmation de la Grainerie en réalisant des émissions diffusées sur plus de 15 radios partenaires. Retrouvez nos interviews complètes et bonus sur radiocaravane.net.